qu'il y a eu des négociations qui ont démarré à l'ONU pour savoir quel est le statut qu'on doit donner à la haute mer, c'est-à-dire le statut des mers qui ne dépendent pas des mers bordières ou de ce qu'on appelle une zone économique exclusive, parce que la haute mer, c'est un bien commun de l'humanité. Aujourd'hui, rien ne régit véritablement la haute mer, et il s'agit effectivement, parce que la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux durable, je voudrais presque qualifier de désirable, eh bien cette haute mer, il faut la protéger. Donc oui, la mer, vous savez, elle fait penser à l'infini, la mer, parce que c'est 72% de la surface du globe. Mais ce qu'on ne mesure pas toujours, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux sur son pourtour. Imaginez qu'en 2025, c'est presque demain, 75% de la population mondiale va se trouver concentré sur une bande littorale de 75 km de large. C'est dire toute la pression que nous allons faire porter sur les océans. Et ces océans, si vous voulez, c'est véritablement l'une des solutions majeures pour permettre à la Terre de mieux se porter demain. Donc il faut être très vigilant pour ne pas faire avec la mer ce que nous avons eu trop tendance à faire avec la Terre.
Alors, les scientifiques notent depuis plusieurs années une acidification croissante des océans due au réchauffement climatique. Si l'on veut mieux protéger ces océans, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer d'abord par mieux protéger la Terre ?
Tout est lié. D'abord, un grand merci à la mer en cette journée de fête pour la mer, en ce 8 juin. Pourquoi ? Parce que la mer elle a l'excellente idée d'absorber plus du tiers des émissions de CO2 de la planète. Ceci étant dit, depuis le temps qu'elle absorbe ces 30% des émissions de CO2 que nous émettons, les mers, vous l'avez dit, s'acidifient. Et la menace majeure qui porte sur les océans aujourd'hui, c'est bien cette acidification des océans. On voit bien qu'on ne pourra plus continuer à émettre autant d'émissions de CO2 parce que les mers, qui nous rendent ce formidable service en absorbant le tiers, n'en peuvent plus.
La France est le deuxième domaine maritime au monde, mais c'est un patrimoine assez méconnu, dont les politiques d'ailleurs parlent assez peu. Comment vous l'expliquez ?
On ignore tout simplement cela en France. Combien de Français savent véritablement que probablement l'une des plus grandes dates de l'histoire de France, c'est certainement pas 1515, c'est probablement 1994, c'est-à-dire l'application de ce nouveau droit de la mer qui crée ce qu'on appelle des ZEE, c'est-à-dire des zones d'exclusivité économique, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il y a tout dans la mer, sauf qu'on n'en a pas conscience. On n'est pas un pays naturellement, historiquement tourné vers la mer. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase très terrible et en même temps très instructive d'Éric Tabarly, ce grand navigateur français qui nous disait il y a une vingtaine d'années maintenant, la mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage.
Que faut-il faire pour lutter contre la surpêche, un des autres fléaux qui touchent les océans ?
Alors d'abord, il faut dire très clairement qu'on n'aura pas un océan de rechange. Donc on ne peut certainement pas se permettre de faire en mer ce que l'on a fait sur Terre. Vous parliez des espèces de poissons, mais là aussi, quand on met tout le monde autour d'une table, quand on réfléchit bien, il y a des solutions. Il y a effectivement surexploitation sur 15 grands stocks de poissons. Pourquoi ? Parce que où que nous soyons de par le monde, on veut tous manger ces mêmes 15 espèces de poissons. Sur les côtes françaises de métropole, il y a déjà 253 espèces de poissons comestibles. Donc vous voyez, si on élargissait notre consommation de poissons sur d'autres espèces que les 15 espèces que tout le monde veut, ça ferait porter déjà moins de lourdeur, moins de surpêche sur les poissons considérés. Il y a énormément de choses aussi au niveau d'alimentation. La mer, c'était la conclusion du Grenelle de la mer, des experts, la mer contient la quasi-totalité des solutions. C'est vrai au niveau des énergies, grâce aux énergies marines renouvelables. C'est vrai au niveau de l'alimentation. Il y a le poisson, il y a l'aquaculture, mais vous avez les algues, substances extraordinaires. On pourrait remédier à la malnutrition dans le monde, qui frappe quand même un enfant sur trois en Afrique, un sur cinq en Asie, si on utilisait véritablement les algues. Les algues ont un potentiel au niveau de la santé tout à fait étonnant. Donc voyez le cri, il ne s'agit pas de dire « je me bats, il faut se battre pour les petits oiseaux, les petits poissons ». On sait que le maillon le plus faible dans l'environnement, c'est l'homme. À l'homme de se mettre à l'unisson, en harmonie avec cette nature, parce que cette nature, il ne la connaît même pas. Et quand on porte un regard émerveillé sur le monde de la mer, on s'aperçoit que, par imitation, ça peut provoquer, ça peut impulser des résultats tout à fait étonnants au niveau de la recherche. La mer n'a pas fini de nous émerveiller. Vous savez, il y a 15 ou 20 ans, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, avec le développement de la métagénomie qui consiste à faire le séquençage, non pas de gènes isolés, mais de gènes croisés, les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas peut-être plus de 2 à 3% de la microbiologie marine. Vous voyez, saccager, polluer, c'est-à-dire détruire un univers marin qu'on ne connaît pas, en sachant que les origines de la vie sont des origines marines, d'ailleurs il y aurait beaucoup de choses à dire, je crois dit en passant sur mer et spiritualité, sur ce thème-là, c'est quelque chose qui est bien sûr, et tout le monde est d'accord aujourd'hui, un scandale écologique, mais ce qu'on ne mesure pas encore, c'est que c'est en même temps un non-sens économique.
Alors justement, si on élargit le débat au niveau spirituel, que nous dit l'océan de l'homme, de son lien avec la création, avec le Créateur ?
Écoutez, ce que nous dit, ce que nous montre la mer, ce que nous montrent les textes, les textes de la Bible en rapport avec la mer, parce que la mer est beaucoup plus présente qu'on ne le pense dans la Bible. Elle dit en résumé, je pourrais développer, c'est pleine vie, pleine mer. Pleine vie, pleine mer, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai été amené à écrire ce livre, Marin de nos vies. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré un navigateur français qui m'a dit un jour, moi le paradis, j'en ai rien à faire. Je suis breton, j'ai été élevé chez les bons pères, et ils m'ont dit que dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il n'y a pas de mer dans la Jérusalem céleste. Ils m'ont dit, qu'est-ce que j'allais faire là-bas s'il n'y a pas de mer ? Alors là, j'ai beaucoup travaillé la question avec les étudiants, on s'est rendu compte que la réponse, c'est, dans le cadre du premier livre de la Bible, dans les premiers versets de la Bible, je crois même que c'est le verset 7, c'est la création de la vie par séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et donc, métaphoriquement, toute une vie, tout le dessin d'une vie, c'est de passer de la rive d'en bas à la rive d'en haut. Alors heureusement que dans la rive d'en haut, on vous dit que de mer, il n'y en a plus, parce que la mer symbolise la mort. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de mort dans la Jérusalem céleste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mer. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde de près tous les textes de la Bible, on s'aperçoit qu'il s'agit de traverser. Une vie, c'est traverser. C'est pas rester enfermé chez soi avec son iPad, etc. C'est oser partir, c'est oser traverser.
Y a-t-il un message à faire passer aux jeunes générations concernant les océans ?
Je dirais, c'est avoir un regard aimant sur la mer. Elle n'est pas là pour nous dire « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne jette pas ton bidon », bien sûr. Mais portons déjà un regard émerveillé sur la mer. Mettons-nous à son écoute, à travers tout ce qu'elle recèle, des trésors et de ses mystères, on va l'aimer. Et c'est cet amour qu'un certain nombre de personnages d'ailleurs de l'Église ont porté, qui fait que tout naturellement, on aura des agissements que je qualifierais de responsables, mieux que responsables, je dirais, qui nous mettront en rapport avec cette nature qui n'a pas fini de nous émerveiller. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, d'année en année, quand on travaille sur la mer, on est de plus en plus enthousiaste.